Bonjour, vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour. Aujourd'hui, le 4 février 1945, le monde est partagé à Yalta. En organisant la rencontre des puissances alliées en Crimée, Joseph Staline se met dans l'avantageuse position de l'hôte. Il veille à l'affectation des résidences pour chacune des 3 délégations. Il réserve aux Américains le palais de Livadia. Il attribue aux Britanniques la villa Voronchov. Les Soviétiques sont hébergés dans la villa Koreis. Tactiquement, le choix est judicieux. Séparer les délégations anglaises et américaines est nécessaire aux Soviétiques pour éviter qu'ils adoptent des positions identiques. La date de la conférence n'est pas choisie au hasard. Staline donne son aval à la rencontre des Alliés seulement en décembre 1944, c'est-à-dire au moment où les armées hitlériennes, apparemment intactes, conduites par le maréchal von Rundstedt, avancent sur la Meuse. Le haut commandement anglo-américain est en pleine déconvenue. La contre-offensive allemande dans les Ardennes change la donne stratégique. Staline estime qu'elle affaiblira par contre-coup la résistance allemande sur la Vistule. Il sait qu'au moment de la conférence, ses armées se seront emparées de Varsovie et de toute la Pologne. Il se trouverait donc dans une position exceptionnellement favorable pour traiter, selon sa manière, de l'ensemble du problème allemand. Roosevelt s'est embarqué à Norfolk le 23 janvier 1945, avant l'aube, sur le croiseur Quincy, pour gagner l'île de Malte, où rendez-vous est pris avec Winston Churchill. Les deux hommes doivent ensuite rejoindre Yalta par avion. Le Quincy entre dans le port de La Valette le matin du 2 février 1945. Une grande foule est massée sur le quai pour applaudir le président américain. Dressé sur le pont du croiseur Sirius, Churchill dessine avec ses bras de cordiaux gestes de bienvenue. Un télégramme de Staline d'un humour féroce « Attends Roosevelt, j'ai dit Yalta et non Malta. » La conférence anglo-américaine est consacrée à la recherche d'une solution aux différends opposant leurs commandements militaires respectifs sur le front occidental. En définitive, le plan présenté par le général Eisenhower est adopté dans sa globalité. Tous les autres litiges entre Londres et Washington sont laissés de côté, en dépit des efforts de Churchill pour obtenir un accord parfait entre les deux alliés occidentaux avant leur rencontre avec Staline. Roosevelt et Churchill, avec leur délégation au complet, volent de Malte à Saki, l'aérodrome de Yalta, dans la nuit du 2 au 3 février. Le convoi aérien comprend 20 avions C-54 et 5 Yorks britanniques. Il y a 700 personnes à transporter. Les décollages durent toute la nuit. La première rencontre entre les 3 grands a lieu à Livadia le dimanche 4 février. Elle met en présence Roosevelt et Staline sans Churchill. La discussion porte sur l'absence de la France. Staline considère que Charles de Gaulle manque de réalisme en demandant pour la France, qui ne s'est guère battue durant cette guerre, des droits égaux à ceux des Américains, des Soviétiques et des Anglais qui ont porté tout le fardeau de la bataille. Roosevelt raconte en riant que devant lui, à Casablanca, de Gaulle s'est comparé à Jeanne d'Arc comme chef spirituel de la France et à Clémenceau comme chef politique. La conférence débute le 4 février, peu après 17 heures, autour d'une table ronde, comptant 15 personnes, 5 par délégation. Staline suggère que la présidence soit attribuée à Roosevelt. C'est une manière de séparer l'anglais et l'américain, en conférant à celui-ci une position d'arbitre, un rôle de conciliateur, qui le porte tout naturellement à marquer un surcroît de compréhension à l'égard des thèses soviétiques. Après une déclaration introductive de Roosevelt, la réunion est consacrée à deux exposés, sobres et précis. Le premier du général Antonov sur la situation du front oriental, le second du général Marshall, relatif à la position du front du Rhin. Le lendemain se tiennent trois importantes réunions. Les chefs d'état-major se rencontrent à midi. Un déjeuner de travail rassemble les trois ministres des Affaires étrangères. Enfin, à 16h, a lieu l'assemblée plénière. Roosevelt propose de la consacrer à un thème unique, le futur traitement de l'Allemagne. Il rappelle sa proposition de partage du Reich en cinq États autonomes, formulée à Téhéran. Prusse, amputée d'une partie de son territoire, Hanovre et Nord-Ouest, Saxe et Leipzig, Hesse-Darmstadt, Hesse-Kassel et Rhin-Méridional, enfin Bavière et Bade-Wurtemberg. Dans ce schéma, le canal de Kiel, le port de Hambourg, la Ruhr et la Saar sont placés sous le contrôle des Nations Unies. Churchill pense qu'il est raisonnable d'obtenir le sentiment de la France. Staline évoque la question de la reddition sans condition de l'Allemagne nazie. Une interrogation le préoccupe. Qu'arriverait-il si un groupe parvient à renverser Adolf Hitler ? Les trois grands traiteraient-ils avec lui comme cela s'est passé avec le maréchal Badoglio lors de la chute de Mussolini ? Dès ses débuts, la conférence consiste en une sorte de conversation à bateau rompu, sans ordre ni logique. Les propos se fixent, durant un bon moment, sur la vocation de la France à occuper une partie du territoire allemand. Le débat est vif, mais le compromis suggéré par Harry Hopkins, le proche conseiller de Roosevelt, s'impose. La France obtient une zone d'occupation en Allemagne. Sa participation à l'organisme de contrôle interallié est renvoyée à plus tard. Le 6 février, la discussion est centrée sur la future organisation des Nations Unies. Depuis la conférence de Dumbarton Oaks, le litige entre les Soviétiques et les Anglo-Américains porte sur la question de l'application du veto. Les Soviétiques réclament qu'il puisse s'appliquer à une affaire avant qu'elle ne soit portée à l'ordre du jour de l'organisation. Anglais et Américains soutiennent que le veto ne doit intervenir qu'après le débat et le vote de l'Assemblée. Ils estiment également qu'au cas où une affaire concerne directement l'une des grandes puissances, celle-ci ne doit pas détenir de droit de veto. Les échanges sont francs et directs, les positions sont tranchées et affirmées, le ton s'est quelque peu échauffé, il est jugé préférable d'interrompre là la discussion en la renvoyant à plus tard dans une atmosphère plus sereine et plus propice à la concorde. Le 7 février, la séance plénière est consacrée à la question polonaise. Vyacheslav Molotov, le chef de la diplomatie soviétique, donne lecture des propositions de son gouvernement, réparties en 5 points. La ligne Curzon représente la frontière orientale de la Pologne. La frontière occidentale est marquée au nord par la ville de Stettin. Elle longe la rivière Oder dans sa partie centrale et le cours de la Neisse dans sa portion méridionale. Le gouvernement polonais provisoire comporte quelques chefs démocrates des cercles de Polonais émigrés. Ainsi élargi, il est reconnu par les puissances alliées. Il appellera la population polonaise aux urnes aussitôt que possible pour l'organisation par un vote général des organes permanents d'un État polonais. Roosevelt est choqué par l'emploi du terme « émigré ». Il se déclare autrement tout à fait disposé à discuter sur la base d'un tel texte. Churchill s'exprime beaucoup plus rudement. Il préconise de remplacer le vocable « immigré » par l'expression « polonais provisoirement à l'étranger ». Un échange se déroule également sur le problème de la participation française à la commission de contrôle interalliée. Molotov répète alors qu'il est tout à fait possible d'accorder une zone d'occupation à la France sans pour autant admettre sa présence à l'instance de contrôle et de régulation. Churchill réplique vertement que si une telle procédure est adoptée, les Français causeraient des ennuis sans fin. La participation de la France est nécessaire pour assurer l'uniformité des zones d'occupation. La journée du 8 février est la plus remplie et sans doute la plus importante. La rencontre entre Roosevelt et Staline, sommet de la conférence, débute en milieu d'après-midi. L'entrée du président américain présente la situation du front dans le Pacifique. Pour lui, le temps est venu d'envisager une intensification du bombardement des agglomérations nippones. Il est aussi capital que l'Union soviétique déclare la guerre au Japon le plus vite possible. Staline demande quelle compensation il peut espérer pour ce nouvel engagement militaire. Roosevelt lui répond que l'Union soviétique recevra à la fin du conflit la moitié méridionale de l'île de Sakhaline et les îles Kouriles. Un port situé à l'extrémité du chemin de fer sud-mandchourien, si possible d'Eren, sur la péninsule du Kwantung, pour lui assurer l'accès à une mer chaude. En quelques minutes, un accord est conclu. La conférence s'achève par un dîner de gala offert par Staline. Il comporte 20 services, depuis le caviar gris jusqu'à la pâtisserie caucasienne, avec des mets les plus raffinés et les préparations les plus somptueuses. Yalta, loin de déboucher sur la paix tant espérée par Roosevelt, débride toutes les audaces du réalisme soviétique. Nous allons marquer une pause musicale dans cette émission Historama avant de retrouver la chronique littéraire Un jour, trois livres préparés par Emmanuel. Nous écoutons Léo Ferré, L'affiche rouge, c'était en 1961 dans l'album Les chansons d'Aragon.
Vous n'avez réclamé la gloire, ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà, que cela passe vite, 11 ans, vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes, menaçants. L'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles. Il cherchait un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir français de préférence. Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant. Mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos « Mort pour la France ». Et les mornes matins en étaient différents. Tout avait la couleur uniforme du givre. À la fin février, pour vos derniers moments. Et c'est alors que l'un de vous dit calmement « Bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. » Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses, adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent, toi qui vas demeurer dans la beauté des choses. Quand tout sera fini plus tard en arrivant, un grand soleil d'hiver éclaire la colline, que la nature est belle et que le cœur me fend. La justice viendra sur nos pas triomphants, ma Mélinée, ô mon amour, mon orpheline. Et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent, 23 qui donnaient leur cœur avant le temps, 23 étrangers et nos frères pourtant, 23 amoureux de vivre à en mourir, 23 qui criaient la France en s'abattant.
Vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour, la chronique littéraire, un jour trois livres, il y en a quatre aujourd'hui. Elle a été préparée par Emmanuel, que je remercie. Pour commencer, aux éditions Métayer, Les enfants d'Oppermann de Léon Feuchtwanger. Lorsque Léon Feuchtwanger publie Les enfants d'Oppermann en 1933, il a déjà quitté l'Allemagne et vit à Sanary-sur-Mer. Il déclare vouloir avec ce roman, je cite, « informer le plus rapidement possible ses lecteurs du vrai visage et des dangers de la domination des nazis ». Écrit en temps réel pendant que les nazis consolident leur pouvoir, ce classique de la littérature allemande montre la chute de l'Allemagne de Weimar à travers les yeux d'une famille juive bourgeoise. D'abord incrédule en raison de son statut social et culturel, puis choqué et paralysé par une idéologie qui leur est incompréhensible. Ce roman, traduit en français à sa sortie, mais indisponible et introuvable en France depuis la Seconde Guerre mondiale, est internationalement reconnu comme l'une des œuvres les plus percutantes et lucides sur la montée du nazisme. Un roman visionnaire à l'époque, mais qu'il est tout autant de nos jours. « Les enfants d'Oppermann » de Léon Feuchtwanger s'est publié aux éditions Métayer. « Récit de Colina » de Varlam Chamalov aux éditions Maurice Nadeau dans la collection Poche. Les récits de la Colima retracent 17 ans de la vie de Varlam Chamalov, interné dans les camps du Goulag, dont les mines d'or de Colima Magadan en Sibérie. Ces textes ont été transmis clandestinement en France à l'éditeur par la voie de la valise diplomatique et publiés en 1969. Chaque texte s'ouvre sur une scène de camp. Il n'y a jamais de préambule, jamais d'explication. Le lecteur pénètre de plein pied dans cet univers effroyable. Les premiers recueils écrits peu après sa libération portent en eux toute la charge du vécu. Au fur et à mesure de l'avancement dans l'écriture, on y découvre la préoccupation de Chamalov. Comment traduire dans la langue des hommes libres une expérience vécue dans une langue de détenus, de crevards, composée de 20 vocables à peine ? Ce texte retrace ce qu'aucun homme ne devrait voir ni même savoir dans sa chair ou dans son esprit. Les récits de Colima, c'est signé Varlam Chamalov et c'est publié aux éditions Maurice Nadeau dans la collection de Poche. La maison de Violette de Françoise Bourdon dans la collection Terre de France que nous aimons a évoqué dans cette émission aux éditions Presse de la Cité. En 1967, au Cap Ferré, la maison de Violette, c'est un lieu chaleureux, caressé par les vagues de l'océan, rempli de souvenirs, ceux de la doyenne Charlotte, 95 ans, lieu où se retrouvent tous les dimanches ses proches. Il y a Violette, sa petite fille, fragilisée par sa maladie, et Iris, talentueuse architecte bordelaise, qui a tant œuvré pour sauvegarder la maison. Trois femmes soudées par les épreuves et les joies que la vie va surprendre encore. Quand Charlotte veille sur tous, dignement malgré le poids des ans, Violette craint pour son mari Diego, photographe, parti pour son Espagne natale sous régime franquiste. Iris, elle, souffre dans sa chair de ne pouvoir fonder une famille avec Paul. La maison de Violette, c'est signé Françoise Bourdon, c'est paru aux éditions Presse de la Cité dans la collection Terre de France. Et pour finir cette chronique, Les rescapés de Junas, de Florence Roche, toujours dans la collection Terre de France aux éditions Presse de la Cité. Depuis des générations, les Jacquard forment une grande lignée de fabricants d'eau en bouteille. Mathilde sera la première femme à diriger l'entreprise. Brillante, moderne, la jeune chimiste doit beaucoup à la complicité qui la lie à son grand-père. Elle n'a pas connu Paul, son père, mort d'un accident en 1955, l'année de sa naissance. Le jour des funérailles de sa grand-mère, Mathilde se voit remettre un médaillon trouvé dans les ruines de Junas, le village ardéchois près de Privas. Elle découvre stupéfaite à l'intérieur du bijou des photos de Paul et d'une inconnue, et elle apprend que les habitants de Junas ont tous péri le 15 juin 1955 d'une fièvre inconnue. Elle décide aussitôt de faire toute la lumière sur son père et sur le tragique sort du village maudit. Les rescapés de Junas, de Florence Roche, c'est aux éditions Presse de la Cité, dans la collection Terre de France. Et c'est ainsi que s'achève cette émission Historama. Merci à Thomas qui l'a réalisée. Et c'est en chanson que nous allons nous séparer, c'est toujours Léo Ferré, Les Anarchistes, un titre de 1969 dans l'album L'été 68.
Il n'y en a pas un sur 100, et pourtant ils existent, la plupart espagnols. Allez savoir pourquoi. Faut croire qu'en Espagne, on ne les comprend pas, les anarchistes. Ils ont tout ramassé, des beignes et des pavés. Ils ont gueulé si fort qu'ils peuvent gueuler encore. Ils ont le cœur devant et leurs rêves au mi-temps. Et puis l'âme toute rongée par des foutues idées. Et un lapin sur 100, et pourtant ils existent. La plupart fils de rien, ou bien fils de si peu. On ne les voit jamais que lorsqu'on a peur d'eux, les anarchistes. Ils sont morts 110 fois, pour que dalle et pourquoi? Avec l'amour au poing sur la table ou sur rien, avec l'air entêté qui fait le sang verser. Ils ont frappé si fort qu'ils peuvent frapper encore. Et un lapin sur 100, et pourtant ils existent. Et s'il faut commencer par les coups de pied au cul, faudrait pas oublier que ça descend dans la rue. Les anarchistes. sont un drapeau noir en berne sur l'espoir et la mélancolie pour traîner dans la vie des couteaux pour trancher le pain de l'amitié et des armes rouillées pour ne pas oublier. Il y en a pas sur cent et pourtant ils existent et qu'ils se tiennent bien. Bras dessus, bras dessous, joyeux, et c'est pour ça qu'ils sont toujours debout, les anarchistes.
We'll be right back.